Qu'est-ce que c'est bon,
mais
ça.
Mais qu'est-ce que c'est bon.
Casser l'œuf en deux, de voir couler ce jaune, c'est de l'amour.
En fin de bouche, on est cueilli par une petite acidité.
Europe 1, 11h, midi 30.
Ça va, c'est la saison, ça.
Oui, ça, c'est bien.
J'ai eu chaud aux fesses. Hein.
La table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour, les amis. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année. La santé d'abord, évidemment, et comme elle passe aussi par notre alimentation, eh bien, on va s'en occuper jusqu'à midi et demi. Des conseils, des recettes de saison, des adresses, c'est ici que ça se passe, vous le savez, hein, tous les samedis de 11h à midi et demi. Direction le marché dans un instant à Strasbourg pour connaître vos bonnes résolutions gastronomiques. Début janvier, ben on en a parlé avec les grandes voix juste avant, c'est la saison de la galette. À ce propos, c'est Catherine Ney qui a eu la fève. Eh bien, on vous invite à un atelier galette des rois. Dans un instant, il y aura de la sucrée et de la salée. Que peut-on souhaiter aux restaurants, aux restaurateurs et aux chefs pour 2022 après 2 ans de crise sanitaire? On va faire un point avec le chef étoilé Yannick Aleno. Voici mes bons vivants du jour. Elle ne s'est pas encore mise au dry January et pour cause, elle goûte les vins pour notre plus grand plaisir et pour le journal Le Monde. C'est Ophélie Neyman. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent.
Avec modération, bien sûr, mais avec des copains, comme on dit aussi. Il a réalisé sa première galette des rois à la Frangipane cette semaine. Il en est très fier et il va partager toutes ses astuces avec nous. C'est notre bistronome en chef Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent. Bonjour Ophélie.
Bonjour Yves.
Ravi de vous retrouver à cette table.
Ravi d'être là, Laurent.
Tous les deux. Et notre premier invité de l'année, c'est l'écrivain Daniel Picouli qui sort un très joli roman autour des vins de sa vie. Allez, petit rituel, on ne perd pas les bonnes habitudes. Qui a dit d'ailleurs une habitude, c'est une seconde nature? Eh bien voilà, notre seconde nature ici, c'est de se demander quel est notre goût de la semaine. Posez-vous la question à la maison ou en voiture, là, à 11h04. Votre goût de la semaine, Ophélie?
Il a un très joli nom, c'est le jambalaya. Envie de dépaysement, envie de chaleur, j'ai opté pour cette épice qui vient de la Louisiane, hein, une épice cajun. Alors c'est tout simple en fait, c'est paprika fumé, piment doux et du cumin. Et alors vous faites ce petit mélange et après vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis des poulets, du blanc de poulet découpé en dés que j'ai fait revenir là-dedans avec un peu de crème aussi à la fin. C'est trop bon parce que ça rappelle un petit peu, je sais pas, les voyages et puis les épices, le bayou.
Le pouvoir magique des épices, ouais, qui nous font voyager. Ouais, c'est bien ça, le jambalaya. Votre goût de la semaine, Yves?
Ah bah moi, c'est un pouvoir magique qui nous arrive du Nord Finistère, de Roscoff. C'est l'oignon de Roscoff. Ah ouais. Alors c'est une des AOP françaises et c'est un oignon que j'apprécie vraiment particulièrement parce qu'il est aussi bon à cru qu'à cuit. Déjà, il a une très jolie couleur quand vous le tranchez. Voilà, cette couleur un peu rosée, c'est marbré, c'est très, je trouve, très sensuel. Et quand on le travaille à cru, il est très fruité, très croquant. Et quand on le cuisine, mais il devient fondant, il devient goûtu. Et on peut faire avec des chutneys, en ce moment des accompagnements avec les gibiers, et voir ce que j'ai réalisé cette semaine, une tombée d'oignon de Roscoff avec une pointe de cidre en fin de cuisson.
Ah, c'est bien ça,
avec
oui,
une petite noix de Saint-Jacques juste poêlée.
Et ben voilà.
C'est un très joli accord.
Les ressources de nos régions, ils bénéficient d'ailleurs de l'appellation d'origine protégée.
Oui, hein, tout à fait, depuis 2013.
L'oignon de Roscoff. Eh bien, mon goût de la semaine, je vous l'ai apporté dans une assiette. J'ai eu la chance de passer quelques jours en Espagne, pour tout vous dire, dans une ville que je ne connaissais pas, Séville. Et j'ai fait le tour des charcutiers, parce que j'ai fait les marchés de Séville, et je vous ai rapporté des jambons espagnols. Il y a du serrano, il y a du pata negra, il y a du belota, il y a un petit peu de tout. Et c'est vrai que, on va le dire, hein, ce sont quand même les plus forts pour faire du jambon.
C'est dur à dire, mais c'est vrai qu'ils ont cette culture du jambon et on arrive à peine à leur cheville.
Élevés en liberté, voilà, nourris effectivement pour certains avec des céréales, pour d'autres avec des glands. Ils les abattent plus tardivement que nous, ils les font affiner de façon plus longue que nous. Il y a une culture du jambon en Espagne, il est fondant. Qu'est-ce que vous en pensez, Ophélie?
Ah, je trouve ça merveilleux et effectivement, pour trouver l'équivalent en France, il faut chercher fort. Moi, j'aime bien le porc noir de Bigorre,
oui,
hein, dans les Pyrénées en France.
Ça
se rapproche beaucoup.
Mais c'est vrai que ça a une longueur de palais, avec cette fin de palais légèrement noisette, qui est assez impressionnante.
Et le gras, c'est le goût et c'est la vie, comme on dit ici. Allez, c'est l'heure d'aller au marché. Aujourd'hui, direction Strasbourg et le marché du Faubourg National. Mélina Fachin, vous savez, notre correspondante dans la région, eh bien, elle a voulu connaître vos bonnes résolutions gastronomiques. Confiez-vous, les amis.
Ah, des bonnes résolutions culinaires? Non, pas particulièrement. On essaye de garder celles de l'année dernière, donc pas mal de légumes, moins de viande.
Non, parce que je pense qu'elles sont déjà assez bien.
Toujours essayer d'ajouter 2-3 légumes dans ce qu'on fait.
Puis des choses peut-être un peu plus chères, mais un peu moins souvent, quoi. Meilleure qualité, voilà.
Peut-être faire plus de choses maison, mais on manque parfois de temps, alors c'est pas évident.
Pas spécialement, j'arrête les bonnes résolutions. Je me tiens pas, donc pas trop d'intérêt.
On les a toujours eus.
Bien équilibrés.
Voilà, et toujours les légumes de saison. Navets, céleri branche, mâche des champs, des épinards.
Des betteraves rouges.
Et des betteraves rouges cuites, voilà.
Voilà.
Donc vous voyez, on est en pleine forme.
Continuez à manger ce qui vous fait plaisir, la vie est trop courte.
Et comment ? Oui, du plaisir avant tout, ça sert à ça la cuisine, effectivement, à rassembler et à se faire plaisir. Je retiens tout de même deux bonnes résolutions gastronomiques qu'on annonce souvent à cette table, les légumes de saison et le fait maison.
Ouais, c'est deux bonnes résolutions, mais moi j'en ai une particulière cette année.
Pas en prendre.
Non, c'est prendre le temps.
Ah oui.
Voilà, malheureusement, mon métier des cuisiniers, on dit toujours que c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. On mange toujours très rapidement et on a ce vice à la maison de continuer à manger doucement, rapidement. Et j'ai envie de prendre mon temps, de mâcher, d'apprécier, d'être dans la longueur.
Et vous avez raison, et mâchons, mastiquons, la mastication est la première digestion. Non mais c'est vrai qu'on mange trop vite souvent.
Ouais, moi, ma résolution, c'est justement de me détacher des recettes, c'est-à-dire prendre un peu tout ce qui traîne dans le frigo et puis je mélange tout et puis on verra bien. Parce que je suis quand même une bonne élève dans l'âme, donc moi j'aime bien suivre les recettes pas à pas. Et là, j'ai décidé que ça y est, j'étais adulte, j'ai l'âge de pouvoir me passer des recettes
et
d'essayer toute seule.
Il faut oser, on a le droit de se gourer, de se tromper en cuisine, encore une fois, on ne le dira jamais assez, mais tentons et laissons-nous guider par notre instinct.
Et puis la fameuse phrase exceptionnelle pour nous, historique d'Alain Chapelle. La cuisine, ce n'est pas que des recettes.
C'est bien plus que des recettes.
C'est bien plus que des recettes. Il faut vivre. Laissez-nous vivre.
Mais voilà, vivons. Aimons-nous vivants, comme disait le grand philosophe François Valéry. Allez, ne bougez pas, on revient dans un instant. La galette des rois se rapproche. A tout de suite, bon samedi.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Pas de repos pour les bons vivants, pas de programme détox après les fêtes. On enchaîne avec la galette des rois et ce matin, on va vous aider à la faire maison parce que vous êtes nombreux à vouloir vous y mettre à la galette des rois cette année. C'est la reine de l'épiphanie, c'était jeudi l'épiphanie. Mais d'ailleurs, pour être tout à fait précis, en préparant cette émission, Ophélie et Yves, j'ai découvert une chose. En France, l'épiphanie, c'est le premier dimanche de janvier et pas le 6 janvier et ce serait un décret papal. Alors si le pape nous écoute, je veux bien qu'il nous appelle pour qu'il nous explique pourquoi ce ne serait pas le 6 janvier, mais c'est ce qu'on m'a expliqué.
Et d'ailleurs, en Espagne, la fête des rois, je crois que c'est le premier dimanche de janvier aussi d'ailleurs.
Oui, bah alors moi j'ai fait le nouvel an en Espagne et il y a la tradition de manger un grain de raisin à chaque coup de minuit aussi. Voilà, voilà les traditions sont toujours là autour de la table. La galette des rois, c'est la reine de l'épiphanie, je le disais Ophélie, mais il y a aussi des brioches et des couronnes des rois en France.
Oui, hein. C'est ça. Mais alors les Français, ils préfèrent quand même la galette hein, à la brioche ou à la couronne des rois.
C'est vrai.
73%, on va dire, les trois quarts des Français. Enfin, ils disent
ça, c'est le même conflit entre la chocolatine et le pain au chocolat.
Pain au chocolat. En tout cas, on vend plus de 30 millions de galettes de chaque année. Donc, ouais. Donc les Français en mangent à peu près 3-4 parts chaque année. Donc peu importe que ce soit le premier dimanche, le 6 janvier, le 15 janvier,
voilà.
Tant qu'on mange les parts de galettes, moi, ça
bon.
Me va.
Exactement. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu, hein, si vous êtes déjà allé chez votre boulanger-pâtissier, les prix ont un petit peu flambé cette année. Yves, il y a une augmentation. Des matières premières.
Ouais, il y a une augmentation un peu générale des matières premières, de la farine, même l'électricité.
Les
énergies, même le transport. Ça fait qu'on est.
Le beurre aussi.
Le beurre a augmenté. Alors, on est en moyenne à peu près à 3 à 4 euros par rapport à l'année dernière d'augmentation par galette.
C'est pas mal. Hein.
Oui, ça fait un prix assez important d'augmentation.
Alors, on le comprend, hein, il faut soutenir les artisans. Et évidemment, ce n'est pas nous qui allons vous dire le contraire. Les vrais, hein, ceux qui la font eux-mêmes et pas qu'on achète des surgelés pour les décongeler qui se ratatinent un petit peu sur la vitrine. Mais c'est vrai que pour réduire les coûts, on peut la faire à la maison, les galettes. Et Yves, vous. Le chef de la bistronomie, alors ça j'adore, c'est la première fois pour nous, pour cette émission ce samedi, que vous êtes lancé dans cet atelier, c'est la première fois que vous faites une galette des rois.
C'est la vérité, je n'avais jamais fait de galette des rois, mais je suis cuisinier, et c'est vrai que les cuisiniers ont fait des desserts de cuisiniers, on fait rarement des desserts de pâtissiers. Et je me suis lancé parce que j'ai une appréhension de la faire, et quand j'ai analysé ce que c'était, c'est quand même très facile à faire, parce qu'il n'y a que deux matières premières, deux préparations, il y a la pâte feuilletée,
oui.
Et après... la frangipane ou alors la crème d'amande.
Exactement.
Enfin, c'est des choix.
Crème d'amande ou la frangipane, qu'est-ce que c'est qu'une frangipane? On le rappelle, c'est une crème d'amande additionnée de crème pâtissière. Voilà. Vous parlez de la pâte feuilletée que vous avez faite vous-même maison alors?
Oui, alors moi j'ai une pâte feuilletée qui m'a été transmise par Christophe Felder. Voilà, à l'époque où on était au Crillon.
Grand chef pâtissier, ouais, à Mutzig, en Alsace.
En Alsace, il faisait une pâte feuilletée, ce qu'il appelait express. Alors, c'est, la recette, elle est très très facile. On mélange tous les ingrédients ensemble. Vous avez la recette sur le site d'Europe1.fr. On mélange tous les ingrédients ensemble. Après, on la laisse surtout reposer. Le repos et le froid, c'est essentiel pour la qualité de la pâte. On la met au réfrigérateur pendant un quart d'heure, 20 minutes. On la sort et on la toure. Alors, ce qu'on appelle tourer, c'est un terme technique.
C'est la plier.
C'est la plier. C'est-à-dire que vous allez réaliser des rectangles assez longs sur une épaisseur d'un centimètre. Là, et vous le pliez en portefeuille.
On rabat.
Vous rabattez d'un côté et vous rabattez l'autre côté sur le côté rabattu. Vous la tournez d'un quart et vous faites ça 6 fois.
C'est-à-dire
qu'on va lui donner 6 tours.
6 tours, voilà.
Les pliages qui va permettre les pliages où on aura cette stratification de
feuilletage.
Après, important, Laurent, réfrigérateur.
Oui.
Et là, il faut la laisser 1 heure total repos. Pendant ce temps-là, on va réaliser sa crème d'amande.
Ouais, alors, je fais une petite aparté avant qu'on aille sur la crème d'amande. Justement, j'écoute, j'entends des auditeurs, j'imagine, qui se disent « Oh là là, c'est compliqué quand même, la pâte feuilletée. » On peut les acheter aussi, les pâtes feuilletées, Ophélie. Hein.
Oui, c'est vraiment la seule chose compliquée à faire, la pâte feuilletée. Et si c'est trop compliqué, parce que, alors, pour le coup, moi, j'ai quand même beaucoup plus d'expérience que Yves. J'ai dû en faire une vingtaine, peut-être une trentaine dans ma vie de galettes. C'est hyper simple. Pourquoi ? Parce que j'achète la pâte feuilletée. Alors, moi, souvent, je l'achète chez mon boulanger.
C'est une très bonne
raison. Mais on peut aussi la trouver. Alors chez Picard, je suis désolée de faire la promotion d'une marque, mais alors Picard, elle est impeccable, elle est pure beurre. Et ce que, voilà, il n'y a pas d'additif parce que c'est congelé. Et sinon, si vous allez au supermarché ou en épicerie, il faut vraiment faire attention, pure beurre.
Alors ça c'est fait, la pâte feuilletée, on est ok, on l'a fait à la maison avec la version express de Yves et de Christophe Helder où on l'achète. Et maintenant la garniture, donc cette crème d'amande.
Moi, je pars du principe, je ne fais pas la frangipane.
Pas de crème pâtissière.
Parce que la frangipane, ça me demande de faire une préparation de plus.
D'accord.
Je reste avec ma crème d'amande. C'est pareil, c'est
comme
très simple. Tout à fait. On mélange simplement de la poudre d'amande avec du sucre, des œufs et du beurre. Après, chacun a le droit de l'aromatiser. J'aime le rhum vieux.
Oui.
Voilà, je mets toujours 2-3 centilitres de rhum vieux, mais on peut aussi y rajouter 2-3 gouttes d'amande amère si on veut plus de puissance autour de l'amande. Et après, une fois que ma frangipane est faite, je la remets au réfrigérateur.
C'est pas une frangipane,
non,
là, votre crème d'amande.
Vous avez raison, la crème d'amande.
Ouais.
Je la mets au repos. Je sors mon bâton de pâte feuilletée.
Vous l'étalez.
Je vais l'étaler sur un demi-centimètre et je vais faire 2 cercles de entre 20 et 22 centimètres.
Deux beaux disques, oui.
Deux beaux disques. Je pose mon disque sur mon plan de travail. Au centre, je vais étaler
la
crème d'amande en laissant les bords, un bord de 2 centimètres.
Oui.
Voilà, je prends un pinceau avec un peu d'eau.
Pour la soudure.
La soudure, j'humidifie ma pâte. Je prends mon deuxième bâton que je pose dessus. J'appuie.
Et la fève.
Colle. Oh, la fève.
T'as oublié la fève.
J'ai oublié la fève.
Un petit truc
Ouais, alors moi j'ai un super truc pour la fève, surtout quand on a des enfants, et c'est ça l'intérêt de faire la galette soi-même, c'est que vous faites une petite croix là où vous mettez la fève.
C'est super.
Comme ça, même après la cuisson, vous savez où est la fève. Et vous envoyez le petit dernier sous la table, et en fait vous savez très bien où va être la fève.
Il faut la mettre au bord plutôt qu'au centre, parce qu'on risque moins de tomber dessus quand on coupe comme ça.
Alors donc, quand vous avez collé, vous la remettez au réfrigérateur,
oui.
Bien la laisser reposer encore 10-15 minutes. Vous prenez votre plaque à pâtisserie avec un papier cuisson ou un slim plate. La petite astuce de M. Candebord, c'est que je prends du sucre roux et je vais saupoudrer légèrement 20 cm de diamètre un cercle, ma plaque à pâtisserie. Je sors ma galette et je la retourne.
Oui.
Je la prends et je la retourne et je la mets sur ce petit lit.
Et elle aura une belle face bombée, bien présentable
à
la surface.
Et le dessous, grâce, comme je l'ai déposé sur ce lit de sucre roux, ça va caraméliser. Après, avec un jaune d'œuf battu, je vais la dorer. Je vais lui faire un décor un peu comme j'ai envie de le faire.
Des croisillons.
Et je vais légèrement chicoter le tour. Un four après, à 175 degrés.
Et combien de temps ?
On enfourne entre 35 et 40 minutes. Une fois qu'elle est cuite, on va la laisser. Je ne l'aime pas chaude.
C'est bon.
Je suis un des partisans de la manger froide.
Elle est bonne, on l'a là. Elle est délicieuse,
votre
galette.
Laurent, pour finir, j'ai calculé combien ça m'a coûté. Je suis à moins de 10 euros
bien
pour
sûr.
6 personnes.
Et c'est vraiment la première fois, parce qu'elle est belle.
Elle est super belle et super bonne.
Une galette qui sort de chez le pâtissier.
Il n'y a rien à faire, c'est de la pâte feuilletée.
Elle est magnifique.
Non, mais c'est de la pâte feuilletée avec cette crème d'amande. C'est quand même très basique.
La recette, chers auditeurs, vous attend sur Europe1.fr.
C'est agaçant, parce que c'est la première fois qu'il l'a fait, elle est plus belle que la mienne.
Le temps de bien tout raconter, parce que voilà, c'est important. Elle est délicieuse, elle est à tomber. Et c'est vrai que... Vous dites qu'elle est froide, moi je la trouve...
Oh non, c'est Yves qui a la fève.
Ah ben voilà, eh ben bravo, vous êtes le roi. Vous êtes le roi, vous avez le droit de choisir votre reine. Le roi de la galette.
Ophélie.
Oh non.
Ophélie, je vous prends comme reine.
Eh ben, je peux vous dire que Claire Dutronc et Lucie Lescourou sont pas contentes, vous arrangerez après.
Oui.
Vous arrangerez. Allez les amis, ne bougez pas, dans un instant on fait un point sur l'avenir du restaurant avec le chef Yannick Aleno. Et puis on parlera vin aussi. On a un document exceptionnel à vous faire écouter, dans un instant.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous revoilà les amis. Alors entre les confinements et les règles sanitaires, les Français ont-ils déserté le restaurant ou au contraire, tiens, se retrouvent-ils à table pour célébrer l'art de vivre à la française? Eh bien ça dépend hein, en vrai, ça dépend des établissements, ça dépend des villes. Si la clientèle répond présent, c'est le personnel, lui, qui manque à l'appel et depuis quelques jours, c'est vrai que les réservations sont en berne. Alors que peut-on souhaiter au restaurant, aux restaurateurs et aux chefs pour 2022? On se pose la question ce matin avec Yves Candebordes, Ophélie Neyman et Yannick Aleno. Le grand chef étoilé est avec nous en ligne. Bonjour Yannick.
Bonjour à tous et bonjour, bonne année, Yannick. Évidemment.
Et bonne année, qu'est-ce salut, qu'on vous souhaite
année.
Qu'est-ce
ouais,
qu'on
année.
Vous souhaite, tiens
ben, plein de belles assiettes et puis plein de clients et du personnel heureux.
Alors, c'est
on
ça.
Sera déjà comme ça.
Oui, vous êtes le chef.
Passé dans une autre ère.
Vous êtes le chef des trois restaurants du pavillon Le Doyen à Paris. Vous avez publié le 9 décembre, Yannick Aleno, une tribune dans Le Monde pour que les chefs et autres professionnels de la restauration se réunissent. L'urgence principale à vous entendre, c'est comment redonner envie en fait aux jeunes de faire de la restauration, si je vous suis bien.
Bien, on s'est tous aperçus d'une désertion de l'intérêt de ce métier par une partie de nos jeunes et c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant pour nous tous et puis c'est quand même un métier formidable. Moi j'en suis peut-être un exemple comme beaucoup d'ailleurs d'un enfant de banlieue qui devient entrepreneur et qui crée de l'emploi et qui nage dans le bonheur quand il mène ses restaurants. Donc je pense que ce métier doit garder cet intérêt national pour donner l'envie à des jeunes d'embrasser cette profession parce qu'on peut rentrer par la cuisine et sortir par une autre porte et devenir autre chose, mais c'est ça qui est formidable.
C'est vrai qu'il y a plein de débouchés, il y a plein de façons d'envisager ce beau métier dans le monde de la gastronomie. Alors on pourrait peut-être parler salaire et revalorisation salariale pour tout de suite mettre les pieds dans le plat peut-être. J'ai lu en préparant cette émission, vous dites quand vous étiez chef de partie au Meurice en 94, vous touchiez 11 000 francs. Aujourd'hui, un chef de parti touche environ 1 800 euros net d'après vous, soit vraiment un peu... Il n'y a pas eu un gros écart, en fait, entre les francs et l'euro, c'est ce que vous nous dites.
Bien, ce qui a changé, c'est effectivement le coût du travail et les charges patronales. Enfin, moi, j'étais chef de parti au Meurice quand Yves Candebordes était au crayon et je pense qu'on gagnait mieux notre vie que les jeunes peuvent le faire aujourd'hui à cause, je crois, de ces charges patronales. Et je pense qu'il y a peut-être des réflexions à mener sur ces sujets-là pour que les gens touchent. C'est quand même un métier particulier, un métier de, on travaille le week-end, on travaille le soir.
Enfin bon, et les horaires, les contraintes horaires.
Il y a aussi des contraintes particulières,
absolument.
Les horaires.
Je pense que moi, par rapport justement à la comparaison de deux générations avec 30 ans de différence, les salaires ont légèrement augmenté. Ça, c'est indéniable, peut-être pas assez, mais c'est surtout ce qui a augmenté pour le commun des mortels et pour le petit commis qui arrive de province, comme tu as été toi et comme j'ai été moi quand on arrive à Paris, c'est le logement et tous les frais externes quoi, qui sont devenus complètement... Qui ont pris un pourcentage du salaire est très important.
Qu'est-ce que vous proposez, oui, alors Yannick?
Ben non, j'avais une idée parce que l'autre fois, moi, tout ça me tracasse beaucoup et je regardais un peu comment tout ça fonctionne. Vous voyez, les plateformes, quand vous commandez quelque chose sur une plateforme de votre téléphone, vous acceptez de donner 30% du prix de ce que vous consommez à la plateforme qui est peut-être juste calée sur un serveur et un ordinateur avec des ingénieurs. Et moi, je me dis, si on donnait ne serait-ce que la moitié... Dans le temps, on avait le 15% service qui tournait que pour le service. Et je pense que si on pouvait retrouver une espèce de réflexion sur ce 15% service... Moi, je regardais au restaurant Le Doyen, on donnerait net à tout le monde, jusqu'à la personne qui fait de la vaisselle, entre 600 et 800 euros suivant les mois net, si le gouvernement ne prend pas d'argent et si le patron ne prend pas d'argent.
Ah oui.
Je pense que ça changerait radicalement la donne, ne serait-ce que pour se loger. ne serait-ce que pour se loger à côté du travail. Mettre des jeunes dans un métro aujourd'hui à minuit et demi pour aller de Paris-Centre à Bondy ou je ne sais quoi, c'est quand même extrêmement inconfortable pour eux et puis presque dangereux aujourd'hui avec la sécurité ambiante.
Et je pense aussi aux chefs qui nous écoutent en province et qui ont des restaurants gastronomiques comme vous, Yannick Aleno, et qui, je pense à Alexandre Gauthier par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui lui-même a investi pour pouvoir loger son personnel, c'est-à-dire que de nombreux chefs en province achètent des petites maisons de village qu'ils transforment comme ça en appartements pour pouvoir faire venir les jeunes du monde entier et qui travaillent chez eux aussi. Ouais,
après, chacun trouve des solutions personnelles, mais moi je pense que si on veut vraiment évoluer, voilà, il faut revoir complètement l'organisation générale de notre métier. On le sait, Yannick, on est quand même un métier avec des méthodes de fonctionnement qui sont ancestrales. Les conventions collectives sont vieilles, je perds depuis combien d'années. Il faudrait tout remettre à plat et se rendre compte des problématiques, de la pénibilité qu'a ce métier pour revaloriser les gens qui y travaillent.
Et c'est pour ça que j'ai écrit cette tribune. Mais effectivement, les communes doivent s'engager aussi. Quand tu as des communes qui vivent du tourisme en montagne ou au bord de mer, je crois que ce serait à eux de s'organiser pour que les jeunes qui viennent travailler dans ces coins-là soient en sécurité quand même. C'est un minimum qu'on puisse leur donner.
Alors vous pensez aussi que le client, notre rapport au client doit changer. Vous préconisez un menu en précommande lors de la réservation pour travailler plus sereinement. Vous pouvez nous expliquer, approfondir un petit peu cette proposition ?
Ouais, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Tout doit changer ». C'est une réflexion du restaurant gastronomique à notre époque. Et j'ai mis en place la conciergerie de table au pavillon de Loyens. Alors, je sais que ce qui est applicable chez un restaurateur ne peut pas forcément sur l'autre, parce que nous, on a quand même une grosse maison et on peut peut-être se permettre.
Hein, dans la haute gastronomie, là, on est. Oui.
Mais avant, le client réservait, il appelait, presque on lui demandait son numéro de carte bleue, on raccrochait. Et puis c'était terminé la conversation et la conversation commençait le moment où le client s'asseyait chez nous. Et bien moi, j'ai commencé à parler au client de son menu, de ses envies, de ses allergies, de ce qu'il a envie de manger, de ses souvenirs, etc. Et on crée le menu ensemble avant que les gens arrivent. Ce qui permet plusieurs choses, ce qui permet d'avoir des commandes au plus juste, ce qui veut dire qu'on gagne en rentabilité, ce qui permet aussi d'avoir un travail au plus juste, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas forcément à produire des choses qu'ils ne vont pas servir, et puis d'ouvrir le vin par exemple en avance, qui donne une valorisation supplémentaire à la sommellerie, etc., etc., et qui nous permet de connaître notre client avant qu'il nous arrive. Et ça, c'est formidable. On a vu des vraies évolutions d'organisation dans notre maison, et ça porte ses fruits, et même dans la satisfaction de la clientèle.
Ouais, mais il n'y a plus la magie. Moi, j'aime bien quand j'arrive au restaurant de m'asseoir et de choisir et de ne pas savoir ce que je vais manger avant d'arriver quand même, non ?
On est super d'accord, mais moi, j'aime pas forcément être imposé d'un mono-menu non plus.
Ah oui, non, moi non plus. mais non, mais trois entrées, trois plats, trois desserts.
Ça reste une solution quand même qui représente la minorité de notre métier. C'est la très haute gastronomie qui est exceptionnelle. Oui. Mais c'est vraiment...
Ça commence là, peut-être. Ces réflexions. Je ne dis pas que dans un bistrot, dans un restaurant traditionnel, c'est ce qu'il faut appliquer, j'en sais rien.
Ouais, après, Yannick, moi j'ai toujours peur... Yannick, j'ai toujours peur, moi, de faire supporter l'évolution au client. J'aime laisser le client libre. Après, je pense que vraiment, il y a des choses à faire avec l'État français. Quand je prends les exemples de tout ce qui est avantage en nature... qui nous sont fiscalisés, peut-être qu'il faudra arriver à les défiscaliser, parce que vraiment c'est les conventions collectives qu'il faut revoir.
Ça, c'est sûr.
Voilà, pour laisser la possibilité à tout le monde après de se les accaparer, de les utiliser.
Yves, et chacun je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais on parle pas ça dans ces cas-là. Je crois que je ne veux pas parler de ça quand je fais de la conciergerie de table. J'essaye de comprendre comment on peut enlever aussi une pression quand vous avez 45 couverts qui arrivent en même temps dans un restaurant, en cuisine, on appelle ça le coup de feu. Et ça peut créer des situations compliquées, on le sait tous. Donc moi, c'est une idée d'essayer de voir comment tout le monde se calme, comment tout le monde est précis sur son travail et son évolution, sans éviter de monter dans des coups de pression qu'on connaît tous le vendredi.
On les retrouve dans Tout doit changer, quel service pour le grand restaurant Yannick Aleno. Réagissez, tiens, chers auditeurs, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le groupe Facebook des Bons Vivants. Voilà, que pensez-vous justement de l'évolution du restaurant ? Est-ce que vous avez envie, comme le propose Yannick Aleno, de pouvoir commander à l'avance, avant d'arriver au restaurant, votre plat et votre menu ? Merci Yannick Aleno d'avoir été avec nous.
Merci Yves, à très vite, j'espère.
Ouais, salut Yannick. Et bonne année. Et on revient dans un instant avec un bon vivant qui vient de sortir un roman vraiment passionnant, Les larmes du vin. Daniel Picouli sera avec nous. Avec nous, avec un T apostrophe, bien sûr. Sera avec nous. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants, les amis. Bientôt midi moins le quart. Bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire. Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité, auteur de romans à succès, homme de télévision. Il était un professeur engagé aussi. Alors on le savait amoureux des mots, mais avec son dernier roman, on le découvre amateur de vin. Les larmes du vin, c'est le titre. Une autobiographie œnologique que nous allons déguster jusqu'à la lie. Avec notre invité, Daniel Picouli. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ah bah écoutez, j'arrive et on nous sert un verre. Hein. Je vous avais entendu le tintement.
On trinque.
C'est une des choses les plus belles dans le vin, c'est
bonne
ce
année.
Bruit.
Voilà. Et alors,
meilleur vœu.
J'explique à nos auditeurs parce que j'ai des réactions. Nous sommes tous autotestés, nous sommes vaccinés, nous avons des plexiglas entre nous. Ouais. Et voilà, ouais, donc, ouais. Et on met le masque pas en mangeant, mais on le met aussi. Donc voilà, que tout le monde soit bien au courant. Vous publiez cette semaine, cher Daniel, Les larmes du vin chez Albin Michel, un livre à la fois touchant, drôle et instructif. Un vrai voyage dans le temps œnologique.
Ah, mais ce que vous avez dit sur biographie œnologique, ça me va. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on on traverse sa vie et on repère les moments où le vin a été là, et pas simplement sur le fait de boire un verre, mais ce que ça nous a apporté. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins modéré par rapport au vin? Qu'est-ce qui fait qu'on règne sur cette ligne de crête où on ne tombe pas dans l'abus, l'abus d'abstinence et les autres abus? C'est toute une histoire de vie et qui fait que on apprend, et c'est ce que j'ai voulu montrer à chaque fois, qu'on apprend depuis qu'on est tout petit. Alors moi, je commence dans le ventre de ma mère, parce qu'il n'y a pas de raison. Je ne vois pas pourquoi on se prive de cette période où on entend plein de choses, où il y a un véritable congrès autour du ventre de notre maman, que les gens nous racontent la vie, et qu'enfin, on va la découvrir.
Avec des croyances même sur les taches de vin qu'on peut avoir à la naissance.
Ah, mais absolument, c'est-à-dire que l'envie des femmes enceintes, j'entendais ça quand j'étais gamin, il ne fallait surtout pas avoir d'envie, et surtout pas se toucher, parce que là où on se touchait, il y aurait une trace de vin qu'on appelait la tache de vin. Et c'est le premier mot peut-être que j'ai entendu associé au vin, le mot tache. Alors il a fallu, j'ai passé une vie à essayer d'effacer cette tache associée au vin depuis le début.
Alors le point de départ de votre roman est votre intronisation au Clos Vougeot, un clos magnifique, célèbre, fameux de Bourgogne. Vous devez écrire un discours pour entrer dans la confrérie des chevaliers du tas de vin. Et ça vous impressionne ça, hein, ce discours?
C'est-à-dire
hein
que... on vous attend au tournant au Clos Vougeot. Hein. C'est assez impressionnant, le décorum et tout ça. J'ai l'impression que des gens connaissent ce
Clos
Vougeot-là.
Parce
que je ne sois pas le seul à avoir l'air d'être impressionné, Ophélie. Alors.
Mais éclairez-nous, tiens, sur le Clos Vougeot, chère Ophélie.
Ah bah moi, je vais commencer très simplement.
Oui.
Ah, que son entretien est doux, qu'elle a de mérité de gloire. Elle est ma rire, elle est ma boire. Elle aime à chanter comme nous, elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous.
Qu'est-ce que je fais? Mais le bon bourguignon, c'est incontournable.
C'était Fanchon par Ophélie Neyman, c'est ça?
Exactement, hein, j'avais très envie de chanter, donc comme à la confrérie des chevaliers du tas de vin. Attention, donc j'ai bien dit tas de vin et non pas tasse de vin.
Oui, parce
comme
que
ça
s'écrit qu'un S. Ouais.
Exactement, parce que c'est une référence à la petite tasse en métal qui permet de goûter le vin, de le tâté, d'où son nom, le tâte-vin.
Alors qu'est-ce que c'est exactement cette confrérie? C'est vrai qu'il y a un cérémonial, c'est très impressionnant, comme vous le disiez, hein, Daniel. Mm-hmm. Les chevaliers sont en toge rouge et doré.
Oui,
hein.
Oui, mais c'est quasiment un décorum de Moyen-Âge. On est chez Rabelais. Et puis vous êtes accueillis. Alors vous recevez un carton d'invitation qui devrait être classé monument historique, où on vous explique dans une langue très rablaisienne ce que vous devez faire. Vous devez d'abord être en smoking, les dames viennent, et tout le monde respecte ça, et vous entrez au son du cor, vous entrez dans la grande salle, donc ne pas être impressionné, ce serait un peu étrange quand même.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle un chapitre en plus.
Absolument.
La réunion s'appelle le chapitre de la confrérie, et on doit tous être très bien habillés avec des talons pour les femmes, etc. Et alors qu'est-ce qu'on y fait en fait? Eh ben on boit, on chante, on mange. Alors je vois pas très bien l'intérêt de mettre des talons pour boire, chanter, manger. On célèbre en fait le bon vin qu'on ne boit jamais en vin.
C'est très ancien, hein, ça. Hein.
Ben non, en fait, pas du tout. Ça date de 1934. Alors, c'est pas si vieux.
Ah, je crois que c'était plus vieux que ça, moi.
Mais ça a l'air vieux. Le tas de vin est très vieux, mais la confrérie, elle date des années 30.
C'était... En 1934, c'était pour vider les caves parce qu'il y a trop de vin.
Exactement, à Nuit-Saint-Georges.
Je vais revenir au livre par rapport au carton d'invitation.
Oui.
C'est un moment, j'ai commencé le livre sur par ça.
Les larmes du vin de
les premières pages. Mais c'est une crise de rire. Alors, je suis anti-confrérie, je trouve ça pompeux. Aristo, bourgeois, je déteste ces choses-là. Mais alors, la façon dont vous avez décrit ce carton comme une dégustation de vin,
il faut le lire.
Mais
oui.
J'ai trouvé ça assez exceptionnel. Oui. Je dois vous reconnaître.
Mais c'est parce que c'est ce qui s'est passé quand on le reçoit. On est tous sidérés. Je ne connais pas d'autres cartons d'invitation ayant cette qualité-là.
Vous verrez.
Et qui est...
On ne dit pas tout.
Et puis qui est, effectivement, on vous donne des consignes très, 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 très précises.
Il y a d'autres confréries ailleurs qu'en Bourgogne aussi,
exactement.
Ophélie.
Alors, moi-même qui vous parle, j'ai été intronisée chevalière de la Commanderie du Bon Temps. Ça, c'est la confrérie de Médoc Gravé-Sauterne. Je suis également chevalière de la Dive Bouteille de Gaillac. Je suis aussi chevalière de la confrérie des vins de Chinon. Et alors là, c'est encore plus rablaisien parce que pour être intronisée, il y a une épreuve. Il faut boire 25 centilitres de vin cul sec directement. Et alors là, au moins, vous donnez de votre personne. Mais bon, il y a aussi la Jurade de Saint-Émilion, l'Ordre des Coteaux de Champagne. En fait, il y en a dans tous les vignobles. L'idée, c'est juste de donner envie de boire et de célébrer. Mais
avec modération, bien sûr, hein, je suis obligé de le dire, mais avec des copains aussi. Alors, qu'est-ce qu'on boit?
Alors, cette bouteille, elle nous rapproche justement des chevaliers du Tatevin parce qu'elle a été tatevinée. Ça veut dire qu'elle a été dégustée à l'aveugle et élue par le tatevinage comme digne représentante. Alors, chaque année, il y a à peu près une centaine d'élus de toutes les appellations de Bourgogne à tous les prix. Celle-ci, elle coûte 40 euros, c'est un peu cher, mais pourquoi? Parce que c'est un Nuit Saint-Georges, premier cru, les Chabœuf 2015. Et attention, c'est la bouteille qu'ont bu Emmanuel Macron et Angela Merkel il y a 2 mois. L'ancienne chancelière avait été intronisée, elle aussi, grand officier de l'ordre du Tatevin. On ne sait pas ce qu'elle a chanté. Hein,
peut-être c'était une bouteille d'adieu pour Franck Viola.
C'est ça, oui, exactement. C'est vrai que c'est un pinot noir, donc, hein, en Bourgogne.
Absolument. Oui.
Il est jeune,
très, très
celui-ci.
Beau vin.
2015.
Oui, il a 7 ans. Il est, je trouve, juste si bien. On peut l'attendre encore un petit peu, mais alors là, il a une finesse et une gourmandise. Il est très, très gourmand.
Je dis une bêtise ou pas? Je lui trouve un petit côté presque perlant, comme un vin nature sur l'attaque, là, mais c'est parce qu'on vient seulement de l'ouvrir, peut-être.
Oui, puis il a eu froid, il se réchauffe. Ah, hein, voilà, il a passé la nuit dans ma cave et il a fait froid cette nuit.
Mais il y a de la jeunesse là.
Il y a beaucoup de fruits encore.
On va continuer à parler vin avec Les Larmes du Vin, le roman qui vient de paraître cette semaine chez Albin Michel de Daniel Picouli. Et puis surtout, chers auditeurs, ne bougez pas. On a un document, mais exceptionnel, à vous faire écouter. C'est pas une blague, vous allez entendre. Je peux pas en dire plus, mais c'est un document autour du vin et autour des bienfaits du vin. À boire avec modération, bien sûr. Et nous revoilà à table avec Daniel Picouli qui vient de sortir un joli roman, Les Larmes du Vin, Le Pouvoir des Fleurs de Laurent Voulzy. Vous évoque Belle-Île-en-Mer, vous le disiez.
Belle-Île-en-Mer, un petit coucou, ça m'évoque ma fille, que je salue, Marie, voilà, pour laquelle je porte toujours les chaussures rouges qu'elle m'a offertes, je suis obligé.
C'est vrai,
je suis désolé, à la radio ça passe pas, mais c'est vrai. Et parce que ma fille est née dans le 11e, dans une clinique où les salles portent des noms. Elle est née à Belle-Île-en-Mer. Donc j'ai une fille d'origine très lointaine antillaise qui est née à Belle-Île-en-Mer. Moi, je trouve ça pas mal. Et
C'est un beau clin d'œil. Alors tiens, on reste sur le sujet parce que vous venez nous voir avec votre roman qui vient de paraître cette semaine, Les Larmes du Vin, chez Albin Michel. Et vous écrivez justement dans votre roman que vous êtes un vin de retour des îles.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, vin de retour des îles, ces vins, ce sont des Bordeaux. Des Bordeaux qu'on emmenait promener en trois mâts. On les faisait à fond de cale. On emmenait ces Bordeaux. On allait leur faire la traversée, un aller-retour. Ils étaient mûris à la bourlingue, aux embruns, comme ça. Et quand ils revenaient, ils avaient ces qualités particulières.
On accélérait le vieillissement.
Ouais. Alors, c'est très marrant ce que vous dites, parce qu'il y a Château-le-Puy, Jean-Pierre Amoreau, depuis maintenant 7-8 ans, il refait, donc il a un vin, ça s'appelle la cuvée. C'est la cuvée de Retour des îles. Et il refait ce process.
Ouais.
Et j'ai eu la chance de déguster l'élevage à la maison et le même vin qui avait voyagé. Et c'est complètement différent. C'est une autre puissance, une autre ouverture d'esprit dans le vin.
Et pourquoi vous dites que vous êtes un vin de retour des îles? Parce que du coup, vous avez beaucoup voyagé, que vous prenez des empreintes comme ça en fonction de vos voyages?
Non, parce que j'aime bien l'idée de la flibuste et d'avoir bourlingué. Et j'aime bien l'idée surtout. Les vins de Bordeaux ont permis, avec leur fût, de faire mûrir le rhum. C'est-à-dire que le rhum est maturé dans d'anciens... Donc, il y a une espèce de commerce triangulaire qui n'en est pas un, qui m'intéresse, puisque comme je suis d'origine lointainement africaine, j'aime bien tout ce qui passe par Bordeaux et les îles.
Ça me
rapproche, j'allais dire, de l'Afrique, heureusement.
Alors, dans votre livre, je disais, qui est une autobiographie œnologique, hein, vous racontez tous les vins qui ont croisé et marqué votre vie, et il est question souvent de vins modestes. Et il est aussi question de croyance dans, dans ce livre. Il y a une amie de votre mère qui s'appelle Adrienne, c'est Adrienne, et qui pratiquait l'astrovinologie. Alors ça, c'est énorme, ça.
Oui, l'astrovinologie, c'était la mise en rapport des astres et puis de moment où vous êtes né. Et surtout, elle avait une théorie. Elle disait que quand on était né, par exemple, comme moi en 48, on était un millésime 48 parce qu'on avait été fabriqué et né dans la même année. Donc, on était un millésime 48. Donc, tout ce qui se passait pendant ce millésime 48 allait avoir des répercussions dans votre vie future. C'est-à-dire que moi, qui suis né en 48, je me demande quelles répercussions a eu la création de l'État d'Israël, les grandes guerres, les grandes grèves en France dans les mines. Donc, je me refaisais mon histoire et à chaque fois qu'un événement comme ça arrivait, je me disais mais est-ce que c'est vraiment l'astrovinologie qui guide ma vie? Moi, maintenant, j'en suis un peu moins
vous
sûr.
Vous connaissiez ça, Féline Eman, Miss Gouglou?
Moi, j'avais déjà fait des soirées trouver votre signe astrologique du vin. Mais c'était assez simple. Hein. Est-ce qu'on est explorateur, séducteur?
Alors, il y a une autre croyance qui réside dans le fait de se soigner par le vin. Est-ce que vous connaissez ça?
Oui, il y en a qui soignent un peu trop.
Avec modération, bien sûr. Alors, ce n'est pas une blague ce que je suis en train de vous raconter. Il y a un traité qui est sorti dans les années 70 par le médecin Émeric Maury. Il était convaincu des vertus médicinales des Bourgognes, des Bordeaux et autres Ophélie. Oui. Et Stéphane Collaro, en 77, c'est ça dans le petit rapporteur.
C'est ça, le petit rapporteur, il l'avait interviewé. Et alors, le docteur Maury, pour chaque maladie, il avait la bouteille qu'il fallait.
C'est ça. Alors, on va écouter un extrait. Je vous promets que ce n'est pas un sketch. C'est au premier degré, donc écoutez bien ça. Stéphane Collaro qui interview le docteur Émeric Maury qui veut nous soigner par le vin.
Docteur Maury, vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarquable et peut-être même capital.
Je vous remercie.
En ce qui concerne la médecine, puisqu'il s'intitule « Soignez-vous par le vin ».
Oui.
Cet ouvrage est le fruit de 45 ans de réflexion
et d'expérience surtout clinique auprès de mes malades.
Est-ce que vous avez observé des réticences de la part des malades?
Bon, très rare.
Alors docteur, pour chaque type de maladie, il y a un vin approprié.
Il y a un vin approprié.
Là, par exemple, on a quelques exemples ici, un vin doux.
Alors un vin doux, c'est un vin qui sait qu'il est vraiment à indiquer chez le convalescent pour essayer de remonter un peu leur état de fatigue et de faiblesse.
Certains, c'est tonique.
C'est un tonique. C'est un tonique. Pas.
Et le blanc sec?
Le vin blanc est un vin, au fond, qui agit sur le rein. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, généralement.
C'est ce qu'on appelle le vin du rein.
C'est le vin du rein, exactement. Voilà.
Ça
ne peut pas faire de mal contre les urates, n'est-ce pas? Exactement, qui sont éliminés de cette façon-là. Et c'est un vin qui fait travailler les reins.
Et
voilà.
On n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
Le coup de Bourgogne, là, c'est différent. Le Bourgogne est un vin assez lourd, assez riche. Et c'est un vin qui agira sur la vésicule biliaire. N'est-ce pas? Qui, par conséquent, est un vin indiqué chez l'hépatique. Enfin, c'est très curieux, mais c'est comme ça. Ah, vous voulez goûter?
Non, c'est pour me rendre compte au fur et à mesure.
Vous rendez-vous compte, n'est-ce pas? Et ça ne fait pas de mal.
Le vrai docteur Maury, c'est pas une blague, c'était au premier degré, il était vraiment diplômé, il est mort à 88 ans, je le rappelle, il faut boire avec modération, bien entendu. On a raccourci un petit peu cette vidéo, que vous retrouverez sur le site de l'INA d'ailleurs, et il finit en disant « Le vin devrait être remboursé par la sécurité sociale », franchement, voilà, donc c'est hallucinant.
Ça aurait pu être Jean Carmet. Hein.
Oui.
Je dois vous avouer, j'ai eu un problème de cœur il y a quelques années, et que mon cardiologue m'a dit « Surtout Yves, continue à consommer avec modération du vin. Et surtout, il me dit, tous les soirs, avant de te coucher, un petit verre de vin rouge, ça te fera du bien.
Pourquoi le vin rouge? Parce qu'il y a des anthocyanes, et que les anthocyanes, ce sont des antioxydants qui luttent contre l'engorgement dans les artères. Ça fluidifie le sang. Mais bon, attention quand même.
Avec modération, bien entendu. Oui, non. Et puis voilà, comme le préconisent les instances de santé, c'est bien aussi de plusieurs jours d'être capable de se passer de vin et de ne pas être addict au vin. C'est ça qui est le danger, c'est effectivement l'addiction. Voilà, c'est le docteur Maury que vous pouvez retrouver sur le site de l'INA. Vous auriez pu le mettre dans votre livre, les larmes du vin.
J'ai parlé de Jean Carmet. Et quand j'écoutais, c'était du Carmet, du Desproges. C'est des humoristes de ce type-là qui auraient pu faire ce sketch.
Mais il faut quand même dire que c'était en 1974 qu'est sorti le traité, le livre Soignez-vous par le vin du médecin. C'était une toute autre époque. Et à l'époque, le vin, selon lui, permettait de combattre les alcools forts. Parce que le fléau de l'alcoolisme, c'était par les alcools forts. Aujourd'hui, on a d'autres soucis. Mais voilà.
Oui, parce qu'il y avait les arrivées du whisky beaucoup aussi qu'on consommait. peut-être de façon excessive.
Non, donc buvez du vin français, ça voulait dire.
Et lisez les larmes du vin français, cher Albin Michel, de Daniel Picouli. On revient dans un instant. Alors, ce sera l'heure du plat du jour. Vous le savez, si vous êtes avec nous depuis 11 heures, c'est une galette partie. Aujourd'hui, Yves Candebord nous a fait une galette dans les règles de l'art à la maison. Vous retrouverez toutes les règles sur notre site europe1.fr et vous pourrez réécouter vraiment le pas à pas de la recette en vous abonnant au podcast sur Europe 1. Et moi, je vous ai fait une galette salée, mais j'ai la pression après la galette sucrée d'Yves Candebord. La pression monte, c'est une galette salée toute simple.
Mais c'est une bonne pression.
Avec une garniture de saison, vous verrez de quoi il s'agit. Réponse juste après ça. Bon samedi midi sur Europe 1, c'est la table des bons vivants.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Merci d'être là, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Alors si vous avez manqué nos astuces pour réussir la galette des rois à la maison, vous les retrouverez en vous abonnant au podcast sur europe1.fr et la recette d'Yves Candebord, la recette maison de la galette des rois, vous attend également sur europe1.fr. Nous revoilà avec notre invité Daniel Picouli qui est venu nous voir avec son dernier roman, tout chaud comme une galette qui sortirait du four, Les larmes du vin. Paru chez Albin Michel, une autobiographie œnologique où dès le ventre de votre maman jusqu'à toutes les grandes rencontres de votre existence, vous racontez les vins qui ont marqué votre vie. Je ne vous ai pas demandé, tiens Daniel, quel est votre goût de la semaine ?
Oh ben c'est pour un auteur qui a le livre qui sort, il est sorti hier, qu'est-ce qu'on va faire ? On va boire un petit coupe de champagne avec sa douce dans un petit restaurant qu'on aime beaucoup, un petit peu à l'écart. Et ça a été le goût du jour. Et c'est l'occasion de penser à beaucoup de choses. À chaque fois, je pense à mes parents, parce qu'à chaque fois qu'un livre sort comme ça, ils sont dedans, mais ils ne sont pas en situation de pouvoir le lire. Donc, je leur raconte un petit peu l'histoire. Quoi.
Vos parents que vous nous avez présentés dans un magnifique roman, Le Champ de Personne de Daniel Picouli, que je vous encourage à lire ou à relire. Daniel Picouli, vous êtes le 11e d'une fratrie de 13 enfants. C'était facile de trouver sa place au milieu de tout ce monde et notamment à table?
Bon, à table, c'était simple. C'était la planche à laver. Parce qu'entre deux chaises, je savais que c'était ma place. Oui, le problème dans une famille nombreuse comme ça, c'est pas de prendre la parole. Ça, c'est déjà du boulot, mais il faut après la garder. Et donc, je veux dire par là que la parole a toujours été un combat. Et puis, mais à table, par contre, vraiment, ce que j'aimais, c'est que j'avais l'impression que le repas était posé au milieu de la table et qu'on y avait accès sans trop de chichi et qu'on avait la possibilité de se servir comme ça. Et on sentait, c'est curieux, parce que quand on mange dans les assiettes, chacun mange, j'allais dire, chez soi. Quand on peut prendre dans le plat, on mange avec les autres. C'est une sensation, un sentiment que j'aime encore avoir. C'est avoir le sentiment de manger avec les autres, dans une espèce de petit enfermement comme ça.
Le pouvoir rassembleur de la table. Oui. Vous écrivez aussi, tiens, dans votre roman Les larmes du vin, un jour vous retrouvez à table, mais alors là pour le coup chez votre grande sœur, et c'est un moment un peu privilégié parce que comme vous le dites, vous êtes toujours très nombreux à table, et là vous êtes un petit peu l'invité chouchou chez votre grande sœur. Ouais. Elle vous demande ce que vous voulez manger, qu'est-ce que vous répondez ?
Les escargots. Et je n'en avais jamais mangé, je ne savais même pas ce que c'était. Je trouvais ça horrible parce que je les avais vus circuler sur un seau, tout ça. C'était... Et je ne sais pas pourquoi j'ai répondu ça, mais c'est surtout ce qui m'a marqué, c'est que moi, gamin, petit, on me demande ce que je voulais manger. Chez moi, ma mère, bien évidemment, elle ne demandait pas aux 13, on ne faisait pas un référendum pour savoir ce qu'on allait manger. Hein, et comme je dis souvent, on mangeait ce que la maman nous mettait dans l'assiette. Et c'est quelque chose qu'on respectait complètement. C'est-à-dire que moi, et encore aujourd'hui, je finis mes assiettes. Je finis mes assiettes parce que c'est quelqu'un qui l'a préparé, c'est quelqu'un qui m'a servi, c'est pour moi, c'est une offrande, un cadeau.
C'est du respect.
Et en plus, il y avait quand même aussi une deuxième raison, c'est que le dessert, pour manger son dessert, il fallait que l'assiette soit vide puisqu'on retournait.
Oui, j'ai connu ça.
Le fromage blanc, la petite confiture, et c'était le summum.
Exactement.
Donc on prend des habitudes grâce à ça.
Alors dans ce livre très personnel, vous évoquez votre famille et notamment votre père qui était chaudronnier. Et vous aviez eu une très belle phrase dans une interview. Vous dites « Lorsqu'il lisait des polars à table, la fatigue et les rides disparaissaient de son visage. Et c'est à cette époque que j'ai décidé d'écrire moi aussi, d'écrire des livres capables de déplisser les fronts. » C'est beau ça. Et c'est pas par hasard si vos premiers romans étaient des polars d'ailleurs.
Absolument. Et d'ailleurs, actuellement, je suis très titillé d'en écrire un autre parce que c'est comme si j'envoyais une lettre à mon père. Quoi. Parce que je sais qu'il va le lire là où il est, il le lira. Et c'est vrai que la vocation, il y avait un magicien ou une magicienne qui écrivait un texte Et ce texte défatiguait mon père d'une journée entière de travail. Quelqu'un qui réalise ça quand on est un gamin sur le visage de votre père, vous l'adorez, c'est un saint, c'est un dieu, vous voulez le rejoindre. Donc vous devenez écrivain à table uniquement pour déplisser des fronts.
Voilà, et on voit le bel avenir des livres. Hein. On a dit attention, avec le digital, le numérique, oui, c'est la fin des livres. L'édition ne s'est jamais aussi bien portée. Les libraires n'ont jamais aussi bien travaillé.
Et puis il y a un nombre d'ouvertures de librairies sur l'ensemble du territoire, dans les campagnes, qui est impressionnant.
Il faut faire des librairies cavistes aussi, Ophélie Neyman.
Il y en a, ça existe, des disquaires libraires cavistes, parce que tout ça, ça va très bien ensemble. C'est vrai qu'un verre de vin, ça accompagne un livre, ça accompagne un disque, ça accompagne un moment suspendu.
Mais je crois aussi qu'on a beaucoup vexé le livre en le traitant de non essentiel. Je crois que ça a été une des plus grandes publicités qu'on avait pu faire. Les gens se sont sentis tout à coup, ils se sont dit quoi ? Le livre n'est pas essentiel, ce qui nourrit ma vie, ce qui des fois me fait rêver, c'est pas essentiel. Et la petite librairie qui est en bas pourrait disparaître ? Non. Et ça, je trouve qu'il y a quasiment eu une réaction, parce qu'on a eu même des ventes considérables. Les librairies et les maisons d'édition ont fait des très 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 belles années. Et je pense que c'est aussi en réaction contre ça. C'est bien, non ?
Dans ce livre, on apprend aussi, et comment que c'est bien ? Dans ce livre, on apprend aussi que vous avez failli être barman.
Oui, moi j'ai payé mes études et tout ça en étant barman à l'aéroport d'Orly, effectivement. J'étais là comme stagiaire comptable en comptabilité, et le gars est passé, il manquait un commis de bar, il m'a dit toi viens, mais la prochaine fois il faudra te faire couper les cheveux, et j'ai servi des tas de vedettes, parce que je faisais la nuit entre le 11h et 7h du matin à l'aéroport d'Orly, donc tous ceux qui attendaient des avions, qui avaient raté leurs avions, je peux faire la collection des artistes que j'ai servi, et moi j'adorais ça, parce que c'est un métier, comme mon père le pratiquait, c'est-à-dire vous entriez, vous savez rien, et les gars vous apprenaient. On était en compagnonnage permanent, il n'y avait pas comme ça. Si tu es courageux, si tu bosses, tu fais partie de nous, tu fais partie de notre confrérie.
La fameuse transmission.
Absolument.
Alors, on vous parle de galette depuis 11h, on a commencé avec la belle galette qui a relevé le niveau de la galette,
parce
que c'était une crème d'amande, et voici une galette salée que je vous ai faite ce matin, juste avant de venir ici au studio Coluche à Europe 1. C'est une galette salée, pour faire un petit clin d'œil à l'épiphanie, à cette période de galette des rois. J'ai mis une garniture à base d'endives, on est sur la saison, des endives que j'ai fait tomber avec un petit peu de beurre et du miel. Et il y a de la fourme d'Ambert également à l'intérieur, et j'ai mis un disque de pâte feuilletée. Tu en auras, Loïc Vimard. Je vois notre réalisateur qui bougonne parce qu'il n'en a pas, mais il y en a pour toi. Voilà, donc c'est une galette toute simple, endive, bleue, que vous pourrez refaire et qu'il faut servir, je pense, et déguster tiède. Est-ce qu'on a réussi à la réchauffer à votre convenance, Yves Candebordes ?
Je pense qu'elle est juste en température. C'est parfait, parce que plus chaude après, ça aurait pu être plus délicat à manger. Mais c'est vrai que les galettes salées, on les voit apparaître de plus en plus. On a notre star charcutier, le grand charcutier parisien Gilles Véraud, voilà, qui fait une galette, lui, au cochon et au foie gras. Dans le Nord, on a une charcuterie qui est très intéressante, c'est les Gourmets des Bois à Hête, qui a lancé une galette des rois avec une fève en forme de cochon à l'intérieur. Et c'est vrai que le salé est très agréable. Et là, on peut voir qu'il y a un bon mariage avec... voilà,
pâte feuilletée. Alors, j'ai pas fait la pâte feuilletée comme vous. Moi, j'ai acheté une pâte feuilletée.
J'avais demandé
effectivement
la pâte.
Bio que j'ai acheté dans un magasin bio, pur beurre pour le coup.
C'est ce qui est vrai là. En plus, je dois être honnête avec vous. Je pense que vous avez pris beaucoup de risques.
Oui, beaucoup.
Oui, parce que de travailler des endives en galette, c'est super délicat.
Parce que c'est très flotteux l'endive. Voilà. Et pourtant, je les ai goûtées.
Voilà, c'est très flotteux.
Mais bien, attends, je l'ai goûté.
Mais en contreparté, Laurent, c'est vrai qu'on a perdu peut-être un peu.
Ça m'inquiète quand il dit que j'ai pris des risques.
On a perdu un peu de croquant sur la pâte du fond.
Je suis d'accord.
Mais la pâte du fond aussi, voilà, c'est imprégné du jus des endives.
Oui, il y a un côté tourte, vous voulez me dire. Vous essayez de me dire gentiment que j'ai fait une tourte, quoi.
Non, c'est entre les deux.
Daniel, qu'est-ce que vous en pensez, la vérité ?
Quand j'ai vu entrer les assiettes comme ça, j'ai pensé qu'il fallait lancer un mouvement pour la démocratisation des cloches.
Oui.
Je trouve que c'est superbe, quelque chose qui est recouvert d'une cloche, on le soulève comme ça. Voilà. Donc là, j'ai eu l'impression de voir une cloche se soulever.
Mais c'est vrai que là, effectivement, elle s'est reposée et je l'ai réchauffée. Et donc, mais oui, j'ai un problème de four, je crois, parce que j'ai le dessous qui n'est pas assez cuit par rapport au sujet.
Parce que je pense qu'il faut, je ne sais pas, je ne connais pas votre four.
Mais je vais le présenter, mais il faut que je change.
Voilà, j'en fasse mon copain. Mais il faut vraiment le cuire avec la chaleur. En bas.
Oui, c'est ce que j'ai fait. Non, ce qu'il faut faire aussi, moi, ce que je fais souvent dans ces cas-là, c'est qu'il faut mettre la plaque de cuisson dans le four bien chaude pour poser le papier sulfu et que déjà ça saisisse comme ça le dessous de la galette.
Après, on a un petit côté un peu pimenté.
Ouais, j'ai mis du poivre.
Ouais.
Pas mal
ouais.
de poivre.
Bien, mais c'est très
j'ai
bon.
Un miel qui est costaud. Alors, on peut jouer avec les miels. Là, j'ai mis un miel de montagne qui est très costaud, qui est proche d'un miel de châtaignier qui est présent.
Mais j'aime bien le fait de parler, voilà, légèrement piquante, là, le poivre, l'épice qui apparaît.
La forme d'Ambert, elle, est très douce à l'inverse.
Oui. Oui, absolument.
Okay, c'est vraiment un équilibre.
Ça marche bien, la fonte d'Ambert et l'endive, voilà, c'est la saison des galettes, donc amusez-vous à jouer avec les garnitures.
Mais en fait, si on la fait et qu'on la sort du four tout de suite et qu'on la mange sortie du four, elle est merveilleuse, parce que là, elle s'est un petit peu...
Elle est tombée, voilà, je l'ai faite ce matin pour tout vous dire, après, à 9h.
Il y a un problème quand même.
Ouais, quoi? Il n'y en a plus.
Il n'y a pas de fèves. Bah,
tant mieux.
Il n'y a pas de fèves.
Alors oui, non, ce qu'on peut faire, c'est mettre une noix. Je mets une noix à la place de la fève dans ce cas-là. Et on peut faire ça.
Ah, pas mal.
Je voulais vous décerner roi, mais il n'y a pas de
fèves. Non, c'est vous le roi. C'est vous le roi aujourd'hui. Vous êtes galette des rois ou pas plus que ça, vous, Daniel Piccoli?
Si, bien évidemment, galette des rois. Mais là, c'est ce que j'étais en train de me dire, que par rapport à une galette des rois, c'est qu'il y a des goûts différents. Quand on avance dans...
Oui.
Voilà,
c'est il y a la fourme d'Ambert, voilà, il y a l'endive, voilà. Il y a un petit peu de miel,
ça,
effectivement.
C'est un peu successif, il y a des goûts comme ça.
Et ben, je vous mettrai la recette sur europe1.fr.
Il y a une bataille des saveurs, plus en la mâche, plus
mais bien sûr, la galette, moi je suis affreusement traditionnel. La garçon,
pourquoi vous dites affreusement?
Mais parce que ça me plaît de le dire comme ça, parce que comme ça, ça me défend.
Mais non.
Je veux dire, je le suis, je le revendique.
Avec ce mot-là, je le revendique.
Et vous revendiquez aussi être un amateur de céleri rave, je crois.
Oui, mais c'est-à-dire tout ce qui est cantine, ancien. Les souvenirs de Cantoche, ce que les copains voulaient pas. J'avais du rap de céleri rémoulade en pagaille. Et donc, ce sont des souvenirs de cantine que j'adore. J'étais nourri au céleri rémoulade.
Yves Condebord, ici présent, notre chef bistronome, va vous revisiter à la façon 2022 le céleri rémoulade. Et même vous qui nous écoutez, si vous trouvez que le céleri rémoulade est clivant, comme on dit aujourd'hui, restez avec nous, on va vous le faire aimer, le céleri rémoulade. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Et à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous. Bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire. Daniel Piccoli est notre invité. Il est venu nous voir avec son dernier roman, Tout chaud, Les larmes du vin. Enfin, il faut le servir chambré quand même, hein, aux éditions Albin Michel. En 2012, tiens, Daniel Piccoli, vous étiez monté sur scène avec le spectacle issu de votre livre La faute d'orthographe et ma langue maternelle. Mmh. C'est un exercice que vous pourriez renouveler avec ce roman?
Ah oui, complètement. Bah, non, je peux vous le dire là. J'ai déjà commencé la mise en seule en scène de ce roman. Là, oui, je commence dans le ventre de ma mère un petit peu bourré, et parce que ma mère a bu une petite goutte d'abricotine un peu, voilà, comme ça, pour se donner du courage, j'allais dire. Et oui, je vais le faire. Et le souvenir qui me vient tout de suite, c'est que j'ai joué en première partie de l'inauguration du Saumur Champigny, le lancement de la cuvée Saumur Champigny, avec tout le tralala dont on a parlé quasi...
au Festival du Livre de Saumur.
Absolument. Et donc après, je suis rentré sur scène et il restait quelques vapeurs d'alcool, c'est moins qu'on puisse dire. Donc je pense que c'est le premier spectacle que j'ai fait un peu bourré et je trouvais qu'il était très bon. Donc,
ouais. Avec modération, bien sûr. Hein, on boit avec modération et avec plaisir. Tiens, on parlait d'orthographe avec votre ancien livre. À l'heure de l'écriture automatique, qu'est-ce que vous pensez de l'importance de l'orthographe?
Ah ben, l'importance de l'orthographe, c'est les autres. C'est-à-dire que c'est le regard des autres. Et d'ailleurs, dans La faute d'orthographe et ma langue maternelle, justement, je raconte le fait que j'ai toujours fait énormément de fautes d'orthographe, mais j'avais un enseignant qui le tolérait et qui me disait bah, débarrasse ça, et qui me mettait deux notes, une note pour la rédac et une note. Bon. Et après, j'ai eu quelqu'un qui m'a humilié, qui m'a mis debout sur le bureau, qui m'a dit regardez, comment on peut faire autant de fautes d'orthographe, il faut être bête à manger du foin. Et ce gars ne savait pas une chose, c'est que ma mère était dysorthographique. Ce type était en train de dire que ma mère était bête.
Quelle horreur.
Alors j'avais deux solutions et je lis dans la pièce, ou je le tue, ou je fais des fautes d'orthographe pour défendre ma mère. C'est-à-dire pour prouver qu'on peut faire des fautes d'orthographe sans être bête. Et c'est ce regard-là qui, surtout, moi, quand je reçois beaucoup de parents, puisque comme je suis un espèce de modèle de dysorthographie, que je suis un transfuge, on va presque dire, en matière d'orthographe, ils viennent, et c'est eux qui sont inquiets. Mais ils sont inquiets de ce qu'on va penser de leur enfant. Et moi, je le dis effectivement à ces jeunes gens, débarrasse-toi de ça. Débarrasse ça parce que tu donnes du pouvoir aux autres et souvent tu donnes du pouvoir aux imbéciles sur toi en faisant des fautes d'orthographe. C'est tout ce que je peux
dire. Et les ravages de l'humiliation encore aujourd'hui avec le harcèlement aussi.
On a souvent dit que le code orthographique était également pour permettre un certain élitisme et permettre socialement une discrimination. C'est très discriminant socialement l'orthographe.
Bien sûr, c'est sophistiqué.
Et c'est uniquement
ça
d'ailleurs. Ouais.
Alors à propos d'école, tiens, vous nous avez confié, on le disait avant la pause, avoir un goût particulier pour le céleri rémoulade et les carottes râpées de la cantine. Vous vous souvenez venait vraiment du goût de ces céleri remoulade.
Absolument. Et puis la texture, quoi, cette espèce de voilà, cette chose blanche comme ça, qui, c'est le Yeti pour moi. C'était les alpages, quoi. Et non. Et puis c'est surtout mes potes qui me chargeaient en céleri remoulade parce qu'ils n'en voulaient pas.
Eh bien, Yves Candebord, à votre droite, notre chef bistronome de Saint-Germain-des-Prés s'est amusé à jouer avec le céleri remoulade. Alors, on vous connaît avec la bistronomie, justement, Yves Candebord. C'est-à-dire que vous aimez bien, comme on dit, twister, jouer avec les grands classiques de la cuisine française. Qu'est-ce que vous allez lui faire alors à ce céleri remoulade ?
Eh ben, je l'ai écouté, je pense que je l'ai accompagné, je l'ai caressé, je l'ai cajolé, je lui ai parlé gentiment. Je lui ai dit qu'il s'exprime, qu'il soit heureux.
Il est frais, déjà.
Et c'est vrai que c'est l'une des crudités que je préfère, parce que je suis comme vous, c'est le souvenir de la cantine. Ce fameux céleri remoulade moutardé. Donc là, je me suis amusé à le faire de façon
mayonnaise moutardée.
Mayonnaise moutardée. Le céleri, par contre, moi personnellement, j'aime le couper au couteau. Mm-hmm. Alors c'est vrai qu'à la maison, c'est beaucoup plus délicat, c'est pas râpé. Mais bon, on pouvait le râper aussi. Si vous voulez, ça peut marcher. Mais je pense qu'au couteau, ça donne une texture différente.
Et de la mâche, oui.
Voilà, parce qu'on garde la mâche, on casse pas les fibres et on garde toute l'humidité. Et juste le petit twist, mais il est très simple, le petit twist. C'est que dedans, j'ai pris une pomme. Là, en l'occurrence, ce n'est même pas une Granny Smith, pas acide. J'ai pris une Golden que j'ai taillée en petits bâtonnets et que j'ai mélangée pour amener un côté un peu plus fruité.
Acidulé.
C'est assez simple.
Il y a quelque chose dans la présentation, là, quand il est arrivé, moi, j'ai pensé à un nid. Ça ressemblait à un nid. Et c'est très, très, très joli.
Et ça peut être une très belle idée de faire un petit nid, de laisser donc dans le cœur du nid, d'y déposer. J'ai envie de vous dire peut-être un morceau de jambon, votre jambon, Laurent.
Espagnol, oui.
Espagnol, posé comme ça en copeaux. Ça
marche vraiment bien.
Comme si des petites tranches de jambon étaient des petits oisillons qui demandent « mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ».
À mettre à la carte. Hein.
C'est vrai que c'est délicieux le céleri et cette saison. Et comme je le disais tout à l'heure, il est clivant hein, pour reprendre un mot à la mode. Mais encore une fois, il ne faut pas rester sur ces a priori, mauvais a priori de cantine, quoi, Yves. On peut faire d'autres choses aussi. Hein. Là, il est cru, effectivement, mais on peut le cuire. On peut en faire des mousselines, on peut en faire des veloutés.
On peut en faire autre chose. Et c'est vrai que c'est un des légumes d'hiver que nous, les cuisiniers, restaurateurs, préférons. Parce qu'on va faire beaucoup de choses avec et surtout il a du caractère et je trouve qu'il a un soyeux. Quoi qu'on en fasse, c'est soyeux. C'est long, c'est doux et ça finit toujours par un petit côté noisette. Ouais. On a ce goût de noisette qui apparaît.
Noisette fraîche, exactement. Oui.
Alors, la chose la plus simple à faire, c'est la purée de céleri. Purée de céleri qu'on peut en servir en accompagnement de viande et plus particulièrement de gibier en ce moment. Les céleris épluchés coupés en morceaux, dans une casserole, on recouvre avec un liquide, avec 2/3 d'eau, 1/3 de lait, pour garder la blancheur, une belle cuillère à soupe de riz, qui va amener juste un lion, mais qui ne va pas l'écraser, qui ne va pas l'étouffer, qui va juste l'accompagner, pour lui permettre de se tenir. On fait cuire, quand c'est cuit, on mixe, et là on a une mousseline de céleri.
Donc on mouille à hauteur alors, j'imagine, pas trop d'eau, parce qu'on va avoir une purée liquide.
Non, pas trop d'eau, parce que le temps de la cuisson, donc il va y avoir une réduction du liquide, on aura une texture parfaite.
Et en même temps, si on se gourre, c'est pas très grave. Si on met plus d'eau, on aura un velouté, quoi, à la place.
On aura un velouté. Et après, avec cette purée, Laurent, si vous en reste, vous faites un hachis parmentier.
Oh là.
Un hachis parmentier d'hiver. Vous faites votre viande.
Bah oui.
Votre viande, comme d'habitude.
On revient à la cantine. Il y avait un jour pour le hachis parmentier.
Elle était bien, votre cantine, vous dites donc.
Non, mais attendez, moi. Je ne crois pas que le céleri remoulade soit clivant. Les gens n'osent pas dire qu'ils aiment ça. Je vais leur donner un conseil. Soyez snob. Offrez du céleri remoulade à vos invités. Vous allez voir, ils vont être épatés.
Bon, je finis mon hachis. La viande, dans un plat à gratin. On recouvre de purée, un peu de chapelure, on passe ça au four, bien chaud, pendant 15-20 minutes, et ça vous fait un hachis parmentier au céleri rave. Je peux vous assurer que ça donne un autre esprit. Ça lui donne une autre vie au hachis parmentier. Et en plus, cette saison, c'est un peu tendance et contemporain. C'est une jolie assiette.
On peut le cuire aussi en croûte de sel si vous avez le temps. Vous faites ça une heure et demie. C'est simple, la croûte de sel. C'est du gros sel gris de Guérande, par exemple, que vous allez mettre tout autour de votre céleri. Vous prenez un petit céleri, voire moyen, mais pas un trop gros, au four 180 degrés ou 200 degrés pendant une heure et demie, en fonction de la taille du céleri. Et quand vous l'ouvrez, vous avez une chair qui est fondante et vous faites un beurre au parmesan pour accompagner le céleri comme ça en croûte. Ça marche aussi. C'est vrai qu'il a de la ressource. Hein.
Non, il a la ressource. Et pour finir, pour une recette anti-gaspi, si vous restez encore de la purée, vous la prenez, vous la mettez dans une casserole, vous rajoutez dedans, en temps pour temps, jus d'orange et eau, vous faites chauffer, vous mixez, et là vous avez un petit potage, un velouté de céleri rave à l'orange, vous le servez accompagné avec des amandes torréfiées, Et à la limite, j'ai envie de vous dire, si vous avez un peu de romarin sec, des petits morceaux de romarin qui va vous rappeler un peu l'été prochain, qui va vous approcher un peu du soleil. Et vous avez céleri rave, orange, noisette romarin.
Vive le céleri, Ophélie.
Ah ouais, moi, je l'aime bien aussi. Restes, moi, hein. Je l'aime bien rôti au four, hein, même sans croûte, mais avec un petit peu d'huile, un petit peu d'épices. Et bien, j'ai trouvé une autre recette.
C'est une super recette, ça.
Ouais, et j'ai trouvé une autre recette encore qui est pas mal non plus. Il faut prendre des petits céleris, un par personne. Et vous savez quoi? Eh bien, vous faites des céleris farcis avec les restes d'un pot-au-feu ou d'un bœuf bourguignon.
Oui.
Je vois Laurent qui fait une drôle de tête.
Ça
bah
me dit quelque chose.
C'est une recette que j'ai trouvée dans votre magazine, Les Petits Plats.
Oui, c'est gentil.
Il y a numéro 2 qui vient de sortir.
Effectivement.
Mais non, mais
en
c'est une super idée de recette.
C'est pour ça qu'on en parle, oui, c'est gentil. Merci Ophélie, effectivement. Et ben, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, cher Daniel Picouli. On vous a déjà découvert pas mal, hein, côté fourchette et côté vin.
Oui.
On continue. Quel est le goût de votre enfance?
Alors, le goût de mon enfance, c'est très simple, c'est le goût de brûler. Ma mère,
très enfant,
elle faisait tout brûler, ma mère, jusqu'à me faire croire, à me faire penser que c'était un épice qu'elle rajoutait après. Tout. Et je suis encore étonné que Ducrot n'ait pas fait un épice qui s'appellerait goût boucané. Je lance l'appel.
Ça peut,
hein,
ça peut arriver.
Je vous assure que c'est puissant.
Votre plus beau repas?
Alors, mon plus beau repas, c'est un couscous. C'est un couscous que j'ai fait en 1960 en Algérie, où mon père travaillait là-bas et il nous avait payé des vacances. Et c'est, j'étais assis à côté d'un vieux monsieur qui a fait que je mange toujours mon couscous de la même façon. Je prends toujours un couscous légumes. Je mets la semoule à part parce qu'il me disait le couscous, la vérité du couscous, elle est dans la semoule. Et elle me dit, si un jour tu as réussi, tu n'auras pas besoin de demander de la viande parce qu'on saura que tu as réussi. Alors qu'avec le couscous, on veut faire croire qu'on a réussi en demandant de la viande. Ça paraît pas, mais c'est des leçons quand vous les recevez à 12 ans.
La modestie.
À 12 ans, je trouve ça, oui, la modestie. La modestie et l'idée que, voilà, l'humilité, même l'humilité. Et encore aujourd'hui, on pourra vous le dire, et même quand j'étais prof, quand j'étais à la cantine des profs, je faisais séparer, donc ils me trouvaient chiant.
Votre pire repas, Daniel Picouli?
Alors, le pire repas, c'est un repas en 1968, pendant les événements mai 68, où il y avait un brassage social, on va dire. Bon, moi, j'étais étudiant en droit à la fac de droit, donc j'avais été invité par des amis chez des parents, dans les beaux quartiers, le 5e arrondissement. Quand je me suis assis, que j'ai vu cette batterie de couverts, de fourchettes, de couteaux, je ne savais absolument pas quoi en faire. C'est-à-dire, je ne savais pas comment les utiliser. Alors, on m'a expliqué, voilà, qu'on allait de l'extérieur vers l'intérieur, que la force d'un déjeuner, c'était centripède. Voilà.
C'est ça. Et le mot de la fin, pour terminer, FIM?
Alors, le mot de la fin, c'est encore.
Ah ben bah voilà, durable comme on dit souvent, voilà, mais c'est durable. Ça, quoi de mieux que encore? Et ben encore du céleri rémoulade d'Yves Condebord, encore de la galette d'Yves Condebord, et il reste aussi de la galette aux endives, on peut se refaire un repas. Merci d'être venu Daniel Picouli,
merci à vous.
Les Larmes du Vin, c'est paru chez Albin Michel, merci à ma belle et fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission, Loïc Vimard à la réalisation, Lucie Lescourot à la rédaction en chef, Claire Dutronc à la programmation et à la rédaction avec Marion Sauveur et Julien Amat. Salut Yves Condebord.
Salut Laurent, merci
salut
beaucoup.
Ophélie Neyman, à ce week-end dans Le Monde. Et dans un instant, c'est Europe Midi avec Thierry Dagiral. Et on se retrouve demain, tiens, pour la table du dimanche, avec Julien Clerc et l'écrivain et journaliste Lilia Sen sera avec nous. On sera là demain de 11h à 12h30 sur Europe 1. Bon week-end!